On a tous déjà entendu cette phrase, pour mettre fin au trafic de drogue, il faut envoyer l'armée faire du ménage dans les cités.
Je connais cette théorie, oui.
Une solution pour le moins radicale que le président salvadorien a testée pour nous. Sauf que lui n'a pas envoyé l'armée dans les cités, mais dans l'entièreté de son pays. Le Salvador est passé en l'espace de quelques années du pays le plus dangereux du monde au deuxième pays le plus sûr du continent américain. La raison de tout ça, Nayib Bukele. Fortement critiqué en Occident, adulé en Amérique latine, qui est ce Macron des tropiques qui a déclaré la guerre aux gangs de son pays, et ce au mépris des droits de l'homme. Est-ce que sa méthode musclée fonctionne réellement? Décryptons. En 2015, le taux de mortalité par homicide au Salvador était de 87,5 pour 100 000 habitants. C'était le pays hors zone de conflit le plus dangereux du monde. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, la même année, le taux de mortalité par homicide était de 0,9. C'est 97 fois moins. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, le deuxième pays le plus dangereux du monde en 2015, c'était le Honduras, avec un taux de 68,6. Donc 28% de moins que le Salvador, si j'ai fait le calcul correctement.
Le taux d'évolution, il est égal à...
Pourquoi ça? Eh bien parce que le pays était en partie contrôlé par les Maras ou Pandillas, des gangs armés impliqués principalement dans le trafic de drogue. D'où viennent ces gangs, me demanderez-vous? Petit retour dans le temps. En 1979, au Salvador, éclate un conflit, une guerre civile, entre le gouvernement, une dictature de droite soutenue par les États-Unis, et le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, le FMLN, une guérilla de gauche d'obédience marxiste. 75 000 morts, 8 000 disparus pour un pays qui comptait à l'époque un peu plus de 4 millions d'habitants. Le Salvador n'était pas le seul pays touché par la guerre civile, c'était aussi le cas d'autres pays d'Amérique centrale, comme le Nicaragua, le Guatemala ou le Honduras. Et ce contexte, pour le moins tendu, a alimenté les flux migratoires vers les États-Unis. Sauf qu'à leur arrivée, les conditions de vie de ces immigrés s'avèrent plutôt précaires et une partie de la communauté décide alors de se regrouper entre amis, entre eux, Maras. C'est donc dans les ghettos de Los Angeles et dans les prisons californiennes, parce qu'ils ne se contentaient pas de jouer aux cartes, que sont nés ces pandillas, et notamment ceux qui terrorisaient encore la population salvadorienne il y a 5 ans, la Mara Salvatrucha, ou MS-13, et la Mara Barrio 18. Je suis désolée, je ne sais pas rouler les R, donc mon accent espagnol laisse à désirer. En 1992, la guerre civile au Salvador prend fin avec la signature d'accords de paix, les accords de Chapultepec. Et les États-Unis, pour endiguer les violences des gangs sur leur territoire, décident de les expulser en masse et de les renvoyer dans leur pays d'origine, et notamment donc au Salvador. Après la guerre, vous vous en doutez, la nouvelle démocratie est fragile et corrompu, ce qui permet aux Maras de se développer sans être trop inquiétés. Ces gangs obligent des gens à quitter leur domicile, notamment dans le quartier de la Campanera, et récupèrent leur maison pour faire leurs petites affaires, hein, à savoir organiser leur trafic, violer, torturer ou encore assassiner des gens. Pour votre culture G, on appelle ces maisons les Casas Destroyers. Okay. Les mareros extorquent les marchands, recrutent dans les écoles, ils obligent les chauffeurs de bus à payer une sorte d'impôt quotidien pour pouvoir continuer d'exercer. En 2015, ils ont même imposé aux chauffeurs de bus de faire grève, et ceux qui ont dérogé à cet ordre en allant par exemple faire le plein d'essence, se sont fait tuer. En 30 ans, le nombre de leurs victimes oscillerait autour de 130 000, ce qui représente le nombre d'habitants d'une ville comme Annecy, dans un pays qui a une superficie plus petite que la Bretagne. Vous l'aurez compris, à cette époque, les gens ne sortaient pas, il n'y avait pas de vie sociale ou d'espace public, car les rues étaient tout bonnement coupe-gorge et des maras quasiment tout-puissants. Une étude réalisée en 2016 par la Banque Centrale du pays et le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, estimait même que le coût total de la violence, y compris le montant que les ménages consacraient aux dépenses de sécurité supplémentaires et la perte de revenus des personnes découragées de travailler, était de l'ordre de 16% du PIB. Mais tout ça, c'est fini, car c'est là qu'arrive Nayib Bukele. Né le 24 juillet 1881 à San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez est issu d'une famille d'origine palestinienne, chrétienne et catholique, arrivée en Amérique au début du XXe siècle lors d'une importante vague migratoire. Son père, Armando Bukele Catan ou Catan, je ne sais pas, converti à l'islam, imam, docteur en chimie industrielle, est aussi un riche homme d'affaires. À sa mort en 2015, il lègue à ses enfants les entreprises qu'il possède et elles sont variées. Publicité, textile, pharmaceutique, automobile. Nayib interrompt donc ses études de droit et reprend les rênes des firmes familiale, notamment l'entreprise de publicité Obermet, qui gère la communication du FMLN. Car après la signature des accords de paix, le Front Farabundo Martí de Libération Nationale devient un parti politique de gauche, et le père proche des guerrilleros pendant la guerre civile inculque à ses fils des idéaux de justice sociale. Donc, quand Bukele décide d'entrer en politique, c'est naturellement au sein du FMLN qu'il le fait. En 2012, il est élu maire de Nuevo Cuscatlán, une petite ville de la banlieue de San Salvador. Parce que les V sont des B. Il goudronne les rues, offre des centaines de bourses d'études, installe un centre médical, et il n'hésite pas à dénoncer l'incompétence de l'administration nationale de l'eau et des égouts, alors aux mains de son propre parti, à cause de laquelle les habitants de la ville n'ont toujours pas l'eau courante. Il trouve alors un nouveau puits et résout le problème. En 2015, fort de sa popularité, le FMLN le choisit comme candidat à la mairie de San Salvador, la capitale du pays.
Es tiempo de creer.
Il remporte les élections et, là encore, gagne le cœur des habitants. Il équipe les rues de lampe-LED, vire les gangs du centre-ville qu'il transforme en lieu branché, crée une zone piétonne, déplace les vendeurs ambulants dans un marché couvert et multiplie les critiques envers son parti qu'il accuse d'avoir trahi ses idéaux de gauche. Des tensions qui prennent une telle ampleur qu'il est viré du FMLN en 2017 après avoir lancé une pomme au visage d'une conseillère municipale.
Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules.
Bon, ça c'est la raison officielle, hein. Officieusement, ce serait parce qu'il faisait un peu trop d'ombre à la vieille garde. De toute façon, Bukele s'en fout, parce que lui vise plus haut que la mairie de la capitale, il veut accéder à la présidence du pays. Rapide explication du paysage politique du Salvador. Rapide parce qu'extrêmement simple à expliquer. Depuis 1992 et les accords de Chapultepec, deux partis s'alternent au pouvoir. Dans un premier temps, le parti libéral conservateur, ARENA, puis à partir de 2009, le FMLN. Donc, quand, pour les élections présidentielles de 2019, Bukele débarque avec son propre parti, Nuevas Ideas, et qu'il ne se déclare ni de gauche ni de droite mais anti-système, il incarne une véritable rupture de ce bipartisme politique qui dure depuis 30 ans. C'est un peu le Macron latino, hein, finalement, un mec jeune et dynamique.
La fameuse chanson.
Ni de gauche ni de droite, mais un peu des deux.
Un peu d'égalité, d'un peu de lib.
Qui n'a pas de véritable programme mais qui est apprécié car il symbolise un renouveau.
Parce que c'est notre...
Bon, sauf que pour le coup, Bukele a lui vraiment fait changer les choses. Mais revenons à nos moutons. Lors de sa campagne, Bukele axe principalement son discours sur la lutte contre la pauvreté, la violence et la corruption qui gangrènent le pays et les deux parties adverses. Son slogan favori, il y a assez d'argent quand personne ne le vole.
Pero el dinero alcanza cuando nadie roba.
Sauf que sa grande popularité inquiète quelque peu l'établissement politique. Non, ce terme n'existe plus depuis plus d'un siècle, mais vive l'ancien français, qui l'empêche d'inscrire et valider à temps ce nouveau parti. Qu'à cela ne tienne, il rejoint la Grande Alliance d'Unité Nationale, GANA, un parti dissident d'ARENA classé centre-droit. Arrive enfin le jour du scrutin, le 3 février 2019, que Nayib Bukele remporte haut la main dès le premier tour avec 53% des voix. Dès son arrivée au pouvoir, Bukele lance son plan intitulé « Sécuriser le Salvador ». Ce projet comporte 5 objectifs. Prévenir le crime et la violence, améliorer le système judiciaire, réhabiliter les criminels, assurer une plus grande protection des victimes et renforcer les institutions qui assurent la sécurité des citoyens. Parallèlement à ça, il licencie des dizaines de fonctionnaires qu'il accuse d'avoir été engagés par népotisme. Mais il ne les vire pas n'importe comment. Non, il le fait par Twitter. Car les réseaux sociaux, Bukele, il les adore. Et il le lui rend bien puisqu'il est le chef d'État le plus suivi du monde sur TikTok avec 5,5 millions d'abonnés. En 2019, lors de la tribune de l'ONU, il fait patienter l'Assemblée le temps de prendre un selfie. Il prononce alors que le nouveau monde ne se trouve plus dans cette Assemblée, mais dans l'endroit où ira cette photo. Son gouvernement aussi est très connecté, chaque jour la police nationale publie ses prises sur Twitter et le nombre d'homicides perpétrés. Le 31 juillet 2019, il y en avait zéro. Un événement rarissime qui ne s'était produit que 8 fois depuis l'année 2000. Le souci c'est que Bukele a beau avoir remporté les élections présidentielles et le cœur de sa population, son parti est minoritaire au Parlement, donc il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, lui, c'est faire voter un emprunt de 109 millions de dollars pour équiper ses forces armées. Mais les députés, eux, ne sont pas particulièrement chauds. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il attend les élections législatives de 2021. Je rigole. Il fait irruption dans le Parlement avec des militaires, des policiers armés jusqu'aux dents, histoire de mettre un petit coup de pression aux parlementaires, puis il finit par changer d'avis et explique que Dieu lui a demandé de ne pas dissoudre le Parlement car il l'obtiendra démocratiquement. Parce que Bukele est en réalité l'instrument de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Qui sait, c'est peut-être la vérité, puisqu'il finit, en effet, par remporter les législatives de 2021 avec son parti Nuevas Ideas et obtient 56 sièges sur les 84. Bukele possède enfin la majorité parlementaire. Ce nouveau parlement ne perd pas de temps et remplace 9 juges de la Cour suprême de justice et le procureur général de la République. Il accorde l'amnistie aux fonctionnaires publics qui se seraient rendus coupables de corruption lors de la crise Covid, comme Francisco Alabi, le ministre de la Santé, et supprime l'exonération fiscale dont bénéficiaient les journaux depuis 1950. Car, contrairement aux réseaux sociaux, Bukele aime pas trop la presse. Et la presse l'aime pas trop non plus. Le 12 mai 2021, le média en ligne Factum publie un article pour contredire les autorités. Ces dernières ont découvert, dans ce qui est surnommé aujourd'hui la maison de l'horreur, les cadavres empilés de plusieurs dizaines de femmes et assurent que ces meurtres ont été commis avant 2019 et l'arrivée de Bukele à la présidence. Factum prouve l'inverse et l'article est censuré. Le gouvernement accuse les journalistes, malveillants, de vouloir le discréditer dans sa lutte contre la criminalité. D'ailleurs, depuis 2022, une loi condamne les journalistes à 10 à 15 ans de prison s'ils sont accusés de propager les messages des gangs et l'anxiété. Car s'il y a bien une chose dont Bukele se félicite, c'est la baisse du taux d'homicide. Sauf qu'en 2021, le journal El Faro publie son enquête dans laquelle il accuse des hauts fonctionnaires du gouvernement Bukele d'avoir négocié avec les gangs à la manière des anciens gouvernements et que c'est pour cette raison qu'il y aurait une baisse du taux d'homicide. On peut d'ailleurs voir que le nombre de meurtres avait déjà diminué drastiquement avant l'arrivée au pouvoir de Nayib Bukele grâce à ce fameux pacte avec le diable que le président alors candidat conspuait. Qu'il conspue toujours a priori puisqu'il réfute ses accusations. Mais le véritable point de bascule de cette dérive autoritaire survient le 27 mars 2022. Face à la répression du gouvernement contre les gangs, ceux-ci décident de se venger. Ça mène au week-end noir. Entre le 25 et le 27 mars, 88 personnes sont tuées, dont 62 le samedi, les 24 heures les plus meurtrières connues par le pays depuis au moins 20 ans. La réaction de Bukele ne se fait pas attendre, il déclare l'état d'urgence. Et avec cet état d'urgence vient la restriction de certains droits fondamentaux, tels que la liberté de réunion, le droit de connaître les raisons de son arrestation, ou encore l'inviolabilité de la correspondance. La garde à vue est prolongée de 72 heures à 15 jours, et plus besoin pour les policiers de mandat d'arrêt pour arrêter les suspects. Cet état d'urgence est depuis renouvelé tous les mois. En l'espace de 2 ans, l'armée et la police ont arrêté 75 000 membres présumés de gangs. Ça représente 8% de la population masculine de 15 à 30 ans. Afin de pouvoir incarcérer tout le monde, le Salvador fait construire la plus grande prison d'Amérique, le CECO, centre de confinement des terroristes. Le pénitencier s'étend sur 166 hectares et est surveillé en permanence par 600 soldats et 250 policiers, et peut accueillir jusqu'à 40 000 détenus. Ces derniers sont obligés de travailler, n'ont pas droit aux visites ni aux coups de téléphone, histoire de n'avoir aucun contact avec l'extérieur, et dorment à 100 dans des cellules de 100 mètres carrés, sans fenêtres, tout gang mélangé. Ah, et ils sont aussi très certainement torturés. Des conditions de vie extrêmes qui sont pour les autorités à la mesure de l'horreur de leurs crimes. Selon l'ONG Socorro, 220 prisonniers sont morts en détention depuis 2022. Alors, pouce. Si vous avez une morale moyennement développée, vous vous dites comme moi quand je ne connaissais pas les tenants et aboutissants, œil pour œil, dent pour dent, qui sème le vent récolte la tempête et qui sauve le loup tue les brebis. Mais le souci, c'est que là-dedans, il n'y a pas que des membres de gang. À la façon de Robespierre durant la Grande Terreur où il suffisait de pas grand-chose pour être un ennemi de la République, là il faut pas grand-chose pour être suspecté d'être membre d'une mara. Une lettre anonyme, un tatouage, une quelconque condamnation dans son casier. Certains témoignages sont totalement lunaires, comme cet homme qui s'est fait arrêter parce qu'il jouait à Fortnite. Et pour les autorités, Fortnite c'est un jeu de bandits. Donc bon, quand tu prends 45 ans ferme, car c'est la peine pour appartenir à un gang, parce que tu t'es fait un tatouage de dauphin à tes 15 ans, c'est relou. C'est un peu chiant quand même. Et en plus de ces arrestations arbitraires, la justice est tout sauf indépendante. C'est un des problèmes de cet état d'urgence. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs et l'exécutif est tout puissant. Une loi est même passée en 2023 pour autoriser les procès collectifs pouvant juger 900 personnes en même temps. Pour le moment, ça s'est pas encore fait, mais le 7 février dernier, 492 meneurs de la MS-13 sont comparus au même moment de manière virtuelle. Depuis, 7000 innocents ont été libérés, mais il en resterait encore des milliers selon les associations pour qui tout ceci constitue une véritable violation des droits humains. Ce à quoi Bukele répond.
Los derechos humanos de quién? De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos.
De façon générale, Nayib Bukele se fout un peu de la critique et s'en amuse presque. Il s'était décrit dans sa bio Twitter comme dictateur du Salvador, puis comme dictateur le plus cool du monde et aujourd'hui il est le roi philosophe. Et s'il est assez sûr de lui pour se foutre de la gueule des institutions internationales, c'est parce qu'il a le soutien de sa population avec un taux de popularité qui est aussi autour des 90% d'opinions positives. Il n'y a aucun doute quant au fait que sa politique sécuritaire a changé la vie des Salvadoriens. De 38 homicides intentionnels pour 100 000 habitants en 2019, le pays est maintenant passé à un taux de 2,4. Du pays le plus dangereux du monde en 2015, le Salvador est devenu le deuxième pays avec le moins d'homicides intentionnels du continent américain, juste derrière le Canada. Donc, quand l'étude d'opinion publique latino Barometro montre que le Salvador est le pays d'Amérique latine où la population considère majoritairement que peu importe qu'un gouvernement non démocratique arrive au pouvoir s'il solutionne les problèmes, ce n'est pas étonnant. Forcément, en Occident, on voit ça avec nos yeux d'occidentaux, mais quand tu vis dans un pays où la violence est endémique et qu'on te laisse le choix entre voter une fois tous les 5 ans ou pouvoir sortir de chez toi sans crainte pour ta vie, le choix est vite fait.
Moi je pense que la question elle est vite répondue.
Parce qu'en réalité, est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie si on est dans l'impossibilité d'user de ses droits les plus basiques comme aller acheter son pain sans se faire extorquer? En tout cas, pas pour les Salvadoriens. Et la popularité de Bukele va d'ailleurs bien au-delà du Salvador puisqu'il est acclamé dans toute l'Amérique latine. Quelle est la méthode Bukele exactement pour reprendre le contrôle de son territoire? Eh bien, on peut la décliner en trois points principaux. Le premier, c'est le déploiement plus étendu et plus renforcé des forces armées dans le pays, en particulier les zones a priori contrôlées par les Maras. Et, parallèlement à ça, la modernisation de leur équipement. Le deuxième, c'est l'utilisation de l'état d'urgence pour avoir une politique d'incarcération beaucoup plus forte, donc ne pas dépendre des processus judiciaires parfois longs. Parallèlement à ça, on reprend le contrôle des prisons en coupant les prisonniers du monde extérieur, car il avait été démontré que beaucoup de meurtres ou d'actes de violence étaient commandités depuis l'intérieur des pénitenciers. Et enfin, troisième point, l'accompagnement sur le plan social, donc lutter contre la violence à travers l'éducation et l'amélioration des services offerts à la population pour recréer un espace public. Un modèle facile à exporter qui fait donc des émules dans les autres pays d'Amérique latine. Au Pérou, le maire de Lima, Rafael López Aliaga, promet un plan Bukele pour lutter contre l'insécurité avant de se rétracter. Au Paraguay, le président dit s'être inspiré du modèle Bukele en envoyant ses militaires mettre de l'ordre dans les prisons. Au Costa Rica, le ministre de la Sécurité, Jorge... Oh, c'est impossible à dire. Impossible, je suis désolée. J'arriverai pas à le prononcer. Au Costa Rica, le ministre de la Sécurité appelle son gouvernement à suivre l'exemple du président salvadorien. Et au Chili, on avait pu voir des manifestations pro-Bukele. Mais la question c'est, est-ce vraiment une méthode universelle ? Pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple de deux pays, le Honduras et l'Équateur. Au Honduras, la présidente Xiomara Castro a élaboré un plan destiné à combattre l'emprise des gangs et notamment les extorsions, en copiant le modèle Bukele. Déploiement des forces de sécurité dans les rues, interpellations et perquisitions sans mandat, images de détenus en caleçon alignés sur le sol, un projet de construction pour une méga-prison, mais plus d'un an après, le bilan de l'état d'exception est mitigé. Le nombre d'assassinats, 3065 en 2023, a diminué. Le taux d'homicide est passé de 38 pour 100 000 habitants en 2022 à 31 en 2023, soit une baisse de 17%. Mais le taux d'homicide est toujours le plus haut d'Amérique centrale et le troisième du sous-continent. Surtout, les extorsions, première raison d'être de l'état d'urgence, touchent désormais 11% de la population selon une enquête de l'Association pour une société plus juste, l'ASJ, contre 9% en 2022, et serait même à leur niveau le plus haut en 5 ans. Pourquoi ce qui semble avoir fonctionné pour le Salvador n'a-t-il pas eu les mêmes effets au Honduras ? Eh bien, certains experts pointent la différence du nombre de policiers et de la superficie du pays, car le Honduras est plus de 5 fois plus étendu que le Salvador. Au-delà de ça, le Honduras se trouve sur la route des trafics de drogue pour rejoindre le Mexique puis les États-Unis. Et contrairement au Salvador, ne peut pas être évité. Enfin, au Honduras, l'état d'exception n'a pas été mis en place pour combattre la violence, mais pour combattre les extorsions. Or, pour cela, il ne faut pas avoir la faculté d'arrêter qui on veut de manière arbitraire, mais mener des enquêtes pour savoir qui commet ces extorsions. Passons maintenant au cas de l'Équateur. Le 9 janvier, une chaîne de télévision publique est prise d'assaut par des membres d'un gang et choque l'entièreté de la nation. Daniel Noboa, président du pays, décide donc d'imiter le Salvador et de déployer l'armée pour arrêter les membres présumés des gangs et reprendre le contrôle des prisons, car c'est depuis ces établissements que leur chef orchestrait les livraisons de cocaïne et planifiait des séries d'assassinats. Le président affirme que l'Équateur va aussi faire appel à la même entreprise qui a construit la méga-prison salvadorienne pour faire construire sa propre méga-prison. Noboa précise tout de même qu'il n'est pas tant similaire à Bukele, que les droits de l'homme sont respectés dans le cadre des opérations des forces armées et qu'il ne compte pas changer la constitution pour continuer à régner. Car c'est totalement ce qu'a fait Bukele, hein. Il a changé la constitution, normalement il n'était pas censé se représenter, et en fait bah, il a été réélu avec 82% des voix. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison, donc le fait de pas ressembler à un dictateur, que Washington a décidé d'aider Noboa en mettant à disposition des personnels du FBI pour travailler avec les autorités locales sur les investigations, et en fournissant du matériel tel que des gilets pare-balles et des ambulances. Et en un mois, tenez-vous bien, les homicides ont chuté de 70% en Équateur. Donc une méthode qui ne fonctionne pas forcément partout avec la même efficacité, mais qui semble porter ses fruits sur le court terme. Sauf que la méthode Bukele s'inspire directement de la mano dura, qu'on peut littéralement traduire par la main dure, mais c'est moche, donc on va plutôt l'appeler la poigne de fer. Voilà, c'est quand même plus stylé. La poigne de fer, c'est une politique de militarisation de la société qui a notamment été utilisée au Salvador au début des années 2000 pour mettre fin à la violence des gangs. Et si ça a été efficace sur le court terme, les homicides ont quelques mois après sa mise en place augmenté de 70%. Là où la méthode Bukele diffère et laisse espérer des résultats qui durent, c'est qu'elle s'attaque à la racine du problème, notamment le financement des maras par la corruption des hommes politiques et le blanchiment d'argent des entreprises. Mais bon, si le gouvernement Bukele, comme le disent les journaux d'opposition, est lui-même corrompu, bah voilà, ça craint un peu. Et une autre variable qui pourrait être problématique dans les années à venir, c'est le coût financier élevé de cette politique sécuritaire. Aujourd'hui, le Salvador a une dette publique d'environ 80% de son PIB et près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Bukele a voulu régler ce point en transformant le bitcoin en monnaie légale, mais si ça a eu quelques bons côtés comme l'augmentation du tourisme, ça n'a pas non plus renfloué les caisses et c'est un pari pour le moins risqué qui peut certes s'avérer payant dans les prochaines années. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que quand on fout 2% de sa population en prison et qu'on n'autorise pas les prisonniers à avoir accès à des prostituées, des jacuzzis, des PlayStation et des écrans 65 pouces, la criminalité baisse. Hein. Jusque-là, plutôt logique. Et on peut que se réjouir pour les Salvadoriens qui ont vu leur quotidien s'améliorer comme jamais elles n'auraient osé l'espérer. Là où cette guerre contre les gangs pose problème, c'est qu'elle fait pas mal de victimes collatérales et que des innocents se retrouvent derrière les barreaux à vivre dans des conditions terribles. Et si vous me dites que dans toute guerre il y a des victimes collatérales, je vous répondrai que vous avez raison, mais qu'on ne peut pas s'en satisfaire. La question qui se pose, c'est donc, peut-on vaincre l'insécurité et la criminalité quand on a un modèle démocratique traditionnel ? Quand on observe la hausse de l'insécurité dans les démocraties européennes, on peut se permettre d'avoir des doutes. Je vous propose donc de jeter un coup d'œil aux pays les plus sûrs du monde, avec le taux d'homicide intentionnel le plus bas, et repérer leurs points communs. On a donc le Japon, Singapour, Bahreïn...
Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible.
La Suisse, le Qatar, le Luxembourg et l'Autriche. Ce sont l'ensemble des pays qui ont un taux d'homicide intentionnel inférieur à 0,5 pour 100 000 habitants. Déjà, leur premier point commun, c'est qu'ils ont un PIB par habitant relativement élevé, même très élevé pour la moitié d'entre eux. Ensuite, est-ce que tous ces pays sont des démocraties ? Non, la majorité sont des monarchies, constitutionnelles pour le Japon et le Luxembourg, absolues pour le Qatar et autoritaires pour Bahreïn. En revanche, malgré le fait d'être des monarchies, le Japon et le Luxembourg sont considérés comme des démocraties à part entière, où les libertés civiles et fondamentales sont respectées. Pour ce qui est de Singapour, par contre, le pays se classe comme démocratie imparfaite, avec une persistance de l'autoritarisme. Et pour ce qui est du système judiciaire, la majorité de ces pays, en gros tous ceux qui ne se situent pas en Europe, pratiquent encore la peine de mort, qui est une peine pour le moins dissuasive. Conclusion donc, il est possible dans un système démocratique d'avoir un indice de criminalité bas, mais il faut être riche. Je rigole.
Pas